Alors, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour. Nous allons continuer à la grâce du Seigneur ces réflexions pratiques sur le Deutéronome que nous avons débuté. Nous allons maintenant faire le chapitre 7 que j'ai intitulé « Mise à part pour Dieu ».« Mise à part pour Dieu ». Et nous allons, sans plus tarder, débuter en faisant la lecture des premiers versets, des versets 1 à 2.
Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays où tu entres pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi des nations nombreuses, le Héthien, et le Guergasien, et l'Amoréen, et le Cananéen, et le Phérézien, et le Hévien, et le Jébusien, sept nations plus nombreuses et plus fortes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, les aura livrées devant toi, et que tu les auras frappées, tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce.
Voilà pour les deux premiers versets de ce chapitre 7 du Deutéronome. C'est l'Éternel qui introduit son peuple dans le pays. C'est l'Éternel qui aussi chasse les nations qui s'y trouvent et les livre devant eux. C'est ce que nous lisons dans ce texte ici. Et on parle de sept nations plus nombreuses et plus fortes. Et en effet, ces nations étaient beaucoup plus nombreuses que le peuple d'Israël. En effet, ces nations étaient beaucoup plus fortes que le peuple d'Israël. Mais il y avait une grande différence. C'est que le peuple d'Israël était avec le seul vrai Dieu vivant et vrai de leur côté. Donc, on mentionne le Héthien, le Guergasien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Ce qui est fort intéressant, c'est que lorsqu'on lit différentes listes dans différents livres de la parole de Dieu, si vous faites des recherches par nom de ces noms de ces peuples qui sont mentionnés, parfois les listes varient. C'est intéressant. Au lieu d'en avoir sept de mentionnés, il y en aura six de mentionnés et un ou l'autre ne seront pas mentionnés. J'ai essayé de trouver s'il y avait un pattern, pour utiliser un bon mot français, malheureusement, j'en ai pas trouvé. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même, que les sept ne sont pas toujours mentionnés. Des fois, c'est six, des fois, c'est beaucoup moins aussi. Je crois que j'ai vu cinq et trois, bref, pas toujours les mêmes noms. Néanmoins, ces sept nations nous sont mentionnées. Le Hévien qui nous est mentionné ici, les Gabaonites qui ont fait croire qu'ils étaient d'un pays lointain, ils étaient des Héviens. Donc, Gabaon, c'était le Hévien, faisait partie de cette peuplade-là. Donc, sept nations. Le chiffre 7 nous parle de quelque chose de complet, hein, comme une semaine de 7 jours. 7 est souvent un chiffre qu'on a, même dans la culture populaire, hein, comme quelque chose de parfait ou un chiffre chanceux. Mais voilà, ça nous parle de perfection. Mais ici, j'aimerais faire souligner l'aspect de peut-être ce que nous pourrions décrire comme étant la plénitude de ce qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Donc, on a vraiment sept nations, quelque chose de complet, et il y a cette opposition. Ces sept nations tiennent un territoire qui maintenant va être donné au peuple de Dieu. C'est un symbole de ce que nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12. On lit dans le verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Eh bien voilà, Israël allait entrer dans ce pays, il y avait sept nations, c'était tout un combat qui se présentait devant eux. Eh bien nous aussi, lorsque nous grandissons dans notre marche comme croyants, il y a deux aspects, je ne vais pas m'étendre sur cela. Il y a la marche dans le désert, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître la nature qui est en nous, la nature pécheresse, et que ce monde n'a rien pour satisfaire, même naturellement, nos besoins et notre âme spirituellement. Donc, on marche dans ce monde, c'est un désert, on a des besoins, Dieu répond à ces besoins-là. Ça, c'est une chose, et aussi la chair qui est en nous. Il y a des combats, il y a des luttes, mais tout ça, ce sont des expériences du désert, pour ainsi dire. Lorsqu'on lit le livre du Lévitique, des Nombres, aussi le livre de l'Exode, beaucoup d'applications sont faites à cet égard. Mais maintenant, on entre dans la terre promise, et ça, c'est vraiment Éphésiens 6. Les combats pour prendre possession du pays. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 1, on l'a déjà dit à quelques reprises, ça sera répété souvent dans le livre du Deutéronome parce que c'est une des applications les plus simples que nous pouvons faire et une des plus claires aussi. Nous entrons, nous aussi, dans un combat spirituel comme croyants. Et ce combat spirituel est justement pour gagner ces bénédictions spirituelles que nous avons dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Éphésiens chapitre 1. Quand je dis gagner, ce n'est pas de les obtenir, mais c'est de vraiment prendre ce territoire, en profiter chacun individuellement dans nos vies. Ce sont les luttes spirituelles, entre autres. Et Éphésiens chapitre 6 nous parle de cet équipement et de ces ennemis qui s'opposent à nous, qui vont nous empêcher de jouir, de profiter, de grandir dans les choses que nous avons obtenues par l'œuvre de Christ, par la foi, pour grandir, être encouragé comme enfant de Dieu. Donc, il y a une vie actuellement, il y a les promesses à venir que Dieu nous a faites. Nous attendons la venue du Seigneur qui est pour très bientôt. Mais dans notre marche présente, notre Dieu désire que nous possédions, que nous jouissions, que nous vivions dans le bien de tout ce qui a été acquis par Christ. Il y a une responsabilité qui est notre côté, c'est justement d'avoir la victoire sur ses ennemis. Au fil des chapitres que nous allons voir, on ira un peu plus dans le détail dans certains de ses ennemis. J'en reste à cette introduction. Donc voilà, il y avait une responsabilité de la part du peuple qui nous est mentionnée ici dans les versets 1 et 2. Si d'une part l'Éternel livrait ses nations devant le peuple, leur responsabilité est clairement mentionnée ici. Ailleurs, il y a d'autres responsabilités. Mais ce qui nous est dit ici, c'est « quand tu les auras frappés ». Ils devaient aller au combat et s'attendre à la protection de la délivrance de Dieu. Mais le combat, ils devaient le faire. Donc, nous aussi, c'est la même chose spirituellement. Il y a un combat, il y a des luttes que nous devons avoir la victoire dessus pour profiter des bénédictions de Dieu qui nous ont été obtenues. Mais si on reste tout le temps couché, bien confortable, on va pas gagner rien. Il faut que nous allions au combat. Il faut que nous fassions ces luttes. Et ça coûte parfois aller dans ce combat-là. Israël, c'est ce qu'il devait faire aussi. C'est pas en restant oisif dans nos combats spirituels que nous allons avoir quelque victoire que ce soit. Nous lisons aussi dans notre verset, « Tu les détruiras entièrement comme un anathème. Il devait rester rien des peuples qui étaient ennemis tant de Dieu que du peuple de Dieu. » Le peuple d'Israël devait prendre tout le territoire. On sait que, historiquement, c'est pas ça qui est arrivé. On en tirera bien des leçons, surtout à la fin du livre du Deutéronome. « Tu ne traiteras point alliance avec elle », nous lisons ensuite. « Encore moins faire alliance avec les nations qui pourraient ou qui allaient être de reste dans le pays. » Ouais, mais frère, est-ce que Dieu vient pas de dire qu'il devait se débarrasser de toutes les nations qui étaient... Oui, mais... Toi, dans ta vie, mon cher frère, ma chère sœur, est-ce que tu as eu la victoire sur tous tes ennemis aussi spirituellement pour avoir une croissance totalement libre dans le Seigneur? Honte à nous. Il n'y a pas de raison que ça soit ainsi. Mais on regarde l'histoire d'Israël, puis on fait bien « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? » Puis là, finalement, on regarde à nous, puis « OK! » On fait les mêmes expériences. Hein? La même chair, on est les mêmes. Mais ils ne devaient pas faire alliance avec les nations qui pouvait être de raison le pays. On peut voir les conséquences de la suite de l'histoire d'Israël qui n'a pas chassé toutes les nations qui étaient dans le pays. Hein? Certaines nations, on lit, je crois que c'est dans le livre de Josué surtout, qui payaient un tribut. Ils étaient soumis à Israël, ils payaient un tribut d'année en année. Mais vous savez, payer un tribut au début, ça a l'air bien. Ouais, on est les plus forts, ils nous payent, mais ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal parce que le peuple, il finit par s'affaiblir. Surtout à cause de sa désobéissance devant Dieu. Puis ces nations ennemies-là continuent de grandir. Fait que le peuple, il perd des forces. Ces nations ennemies gagnent des forces. Qu'est-ce qui se passe? Un paquet de problèmes. Dans nos vies aussi spirituelles, parfois, hein, on perd des forces, malheureusement. Je sais pas comment ça fait que ça arrive. On sait comment que ça arrive en négligence, puis on marche moins près du Seigneur Jésus. On perd des forces. Et puis soudainement, le monde, il devient plus tentant aussi, ou plus fort, il attaque. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chutes. Israël, on voit ce qui est arrivé pour eux. Puis, on peut l'appliquer facilement pour nos vies aussi. Mais on va revenir sur ce point à la fin de notre chapitre. Il y a d'une part aussi les voies de Dieu, on va le voir. Puis, de l'autre, la responsabilité du peuple qui n'a pas eu de zèle et la foi pour prendre possession. Donc, oui, il devait chasser toutes les nations. Ça n'a pas été le cas. Dieu avait un plan à travers cela, mais d'un autre côté, la responsabilité de l'homme, du peuple, n'est jamais à mettre de côté. Et on lit cette autre expression dans notre verset qu'on a lu, « Tu ne leur feras pas grâce ». La grâce est pour ceux qui croient, qui se rangent du côté de Dieu, qui se détournent de leur mauvaise voie. On en a un exemple en Rahab lors de la prise de Jéricho. Elle a eu la foi, elle a cru en Dieu, puis elle a reçu ses deux espions, puis on connaît la suite de l'histoire. On lit dans Hébreux chapitre 11 au verset 31 que par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. Ceux qui n'ont pas cru, parce que elle avait cru. Grâce aussi lui a été faite. La grâce est pour ceux qui croient. Remarquons qu'il s'agit d'un cas individuel. Le salut est individuel. Il est offert à tous, mais une collectivité ne peut pas être sauvée, sauf si, bien sûr, chacun individuellement dans la collectivité font le pas de la foi. C'est une chose personnelle entre une personne et Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si la grâce est encore offerte aujourd'hui, eh bien, il est trop tard au jour du jugement. C'est ce qui est arrivé à Jéricho. Et c'est ce qui va arriver pour ces sept nations aussi, qui doivent être maintenant ôtées du pays que Dieu donnait à son peuple, parce que le jugement venait maintenant sur eux. On va lire maintenant les versets 3 à 5 ensemble.
Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'embraserait contre vous et te détruirait aussitôt. Mais vous leur ferez ainsi. Vous démolirez leurs autels et vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs ashères et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Nous voyons les relations qu'Israël devrait avoir avec les nations qui allaient rester. Oui, mais frère, encore une fois, est-ce que tu n'as pas dit qu'il devait ôter toutes les... Oui, il devait ôter toutes les nations. On y vient. Voilà, pas d'alliance par mariage. Deux autres choses nous sont mentionnées ici. Ça, c'est la première, pas d'alliance par mariage. On trouve la même instruction pour nous, chrétiens, hein, croyants, dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. On trouve cette même instruction, on la trouve entre autres dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. On lit ceci. « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. » Hein, c'est clair, c'est simple. « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. » Se marier, c'est se mettre sur un joug avec une autre personne. C'est deux personnes qui viennent ensemble. Je lis la suite du verset. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliard? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Quelle part a le croyant avec l'incrédule? Lorsqu'on marie quelqu'un, eh bien, c'est une part commune que nous avons. Et si un enfant de Dieu, un croyant, marie quelqu'un qui n'a pas la foi, quelle part y a entre les deux? Je lis la suite du verset. « Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » On lit aussi dans Éphésiens chapitre 5 au verset 7, « N'ayez donc pas de participation avec eux. » En parlant de ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, qui sont ennemis de Dieu. Nous étions tous ennemis de Dieu. C'est simplement et seulement par la foi en l'œuvre de Christ, en allant à Dieu au nom du Seigneur Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés, que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Mais au contraire, nous sommes faits par grâce enfants de Dieu. Malheureusement, plusieurs ayant leur cœur engagé, hein, quand l'amour, on regarde l'autre, puis ça, quand le cœur est engagé, ils cherchent plutôt à trouver des excuses ou tentent de contourner par divers raisonnements ce que le Seigneur nous enseigne pour notre bien dans ce passage des Écritures, dans Corinthiens et ici dans Deutéronome, verset 3 à 5, qui est un principe qui est répété encore une fois dans le Nouveau Testament. C'est pas que le croyant doit suivre ce qui est dit pour Israël, mais le Nouveau Testament nous enseigne la même chose. On voit que c'est la pensée de Dieu qu'il en soit ici pour ceux qui sont siens. Les raisons étaient bien simples pourquoi Dieu dit cela de ne pas s'allier par mariage. Eh bien, ça allait les entraîner à se détourner de Dieu et à aller vers autre chose. Ici, l'idolâtrie. Donc, le peuple d'Israël, en se mariant avec des femmes idolâtres ou les filles d'Israël se mariant avec des hommes idolâtres, allaient se détourner de Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie. Ah, mais non, ça m'arrivera pas, moi. Voyons donc. Seigneur va me garder, ça va pas arriver. Je te le dis. Alors, laissez-moi rire. Vous savez, je ferai peut-être pas, là, mais je ferai apparaître un gros emoji, là, tu sais, du petit bonhomme qui rit avec les deux larmes de chaque côté, là. C'est en plein ça. Ça va pas arriver, ça. On pense tout le temps que ça arrive aux autres, mais pas à soi, puis qu'on est meilleur que les autres. Hey, l'histoire d'Israël vous suffit pas? L'histoire de plein d'autres personnes qui ont fait cela puis que ça s'est terminé dans la catastrophe. C'est drôle comment on a une mémoire sélective. On est tellement bon pour énumérer le seul ou deux ou trois cas fort unique parmi une multitude que dans la grâce de Dieu, ça a tourné différemment. Mais on oublie toutes les 99% des autres que ça s'est terminé en catastrophe. Pas moi, mais ça va... Ben, voyons. Hey, l'histoire de Salomon, es-tu pas assez clair? Il a été entraîné vers l'idolâtrie. On lit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 3, que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux fils d'Israël, « Vous n'entrerez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous. Certainement, elles détourneraient vos cœurs après leur Dieu. » Eh bien, Salomon s'attacha à elle par amour, et il avait 700 femmes princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Oh oui, mais là, frère, il y en avait 700 puis 300, 1000 au total, là. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, hein, il a lâché prise. Moi, je n'ai rien qu'une. Non, ça va pas marcher. C'est exactement ça qui va arriver. On veut pas de conflit, on veut la paix dans le couple. Ben, s'il faut se détourner des choses de Dieu pour avoir la paix, c'est ça qui va finir par arriver. Mais sinon, ça va être... De toute façon, on ne va pas faire d'arguments, comme je viens juste de dire. Quand le cœur est engagé, malheureusement, on cherche toutes sortes de raisonnements puis de raisons pour ne pas écouter ce que le Seigneur nous a dit pour notre bien. Voilà, c'est ce qu'il nous demande, de ne pas aller vers ça, de ne pas s'allier par mariage. Israël ne devait pas faire cela. Avec des gens qui ne sont pas de la même foi. La deuxième chose qui nous est mentionnée dans cette portion, versets 3 à 5, c'est qu'il ne devait pas avoir de traces d'idolâtrie non plus. C'est écrit très clairement, « Vous démolirez leurs autels et vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs achères et vous brûlerez au feu leurs images taillées. » Il devait détruire toute trace d'idolâtrie. Dans Deutéronome, au chapitre 12, versets 2 et 3, on va revenir plus spécifiquement sur ce point, parce que la même chose nous est mentionnée. Donc, ici, je fais juste le mentionner parce que j'ai plutôt l'intention d'y revenir au chapitre 12. Mais remarquons ceci. S'ils devaient rester de ces nations dans le pays, ils avaient néanmoins le commandement formel de détruire toute trace d'idolâtrie. Même les nations qui allaient se soumettre, qui allaient payer un tribut, l'idolâtrie devait être ôté. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas. Mais l'Éternel, il le dit, vous démolirez leurs autels. Il leur dit clairement, vous leur ferez ainsi. Vous leur ferez ainsi. Donc, pourquoi? Ben justement, pour pas être entraîné et détourné vers les idoles. Vous imaginez-vous, il y a un village, il sert l'Éternel, puis le village juste à côté, il n'a pas été conquis, puis il y a de l'idolâtrie qui se fait là. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver? Il va avoir de l'influence, c'est sûr. Puis, la nature humaine étant ce qu'elle est, le mal, il corrompt toujours ce qui est bon. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous dit l'apôtre Paul. C'est ce qui arrive tout le temps. La nature humaine est comme ça. C'est un combat spirituel. Puis si on pense qu'on peut toujours résister face au mal de cette façon-là, c'est faux. Il faut fuir. Il faut fuir le mal, il faut résister au diable. C'est deux choses différentes. Fuir le péché, fuir le mal, il faut s'en aller, comme Joseph a fait, résister au diable. C'est deux choses que nous sommes appelés à faire. Est-ce que les idoles devaient demeurer parmi les Gabaonites, par exemple? Gabaonites, on sait qu'ils ont usé de subterfuges pour avoir la vie sauve. Est-ce que les Éviens, parce qu'ils avaient été maintenant sauvés à cause de l'engagement du peuple d'Israël, on lit ça dans Josué, est-ce qu'allait Israël permettre que les idoles restent parmi les Gabaonites? Ça ne devait pas être le cas. Vous leur ferez ainsi, vous démolirez leurs autels. Et puis les villes soumises aux tribus, est-ce qu'Israël devait laisser l'idolâtrie là aussi? La réponse est non. Il ne faut pas qu'il y ait d'idolâtrie nulle part dans la terre que l'Éternel donnait maintenant aux Israélites. Dans la réalité, on sait très bien que ce n'est pas ça qui est arrivé, mais c'est ce que l'Éternel avait commandé à son peuple. Après notre salut, nous, enfants de Dieu, hein, dans notre marche comme croyant, on ne peut pas continuer à faire tout ce que nous faisions autrefois. Si une chose ne peut pas être ôtée de notre vie, des circonstances, s'il y a des choses que nous devons tolérer dans une certaine mesure, eh bien, on doit s'assurer qu'elles ne seront pas, ces choses-là, une source de tentation pour retourner aux choses d'autrefois. Par exemple, si un jeune adulte demeure encore chez ses parents, il accepte le Seigneur, il est sauvé, il risque d'avoir des choses dans la maison de ses parents qui peuvent être une source de tentation. Qu'est-ce que le jeune homme doit faire? Lui, il doit faire au maximum qu'il peut pour ôter tout ce qui peut être des sources de tentation. Si on a la possibilité, la liberté de se libérer de ces choses-là, il faut le faire. Et aujourd'hui, on vit à une époque où les téléphones cellulaires, entre autres, sont une grande source de chute, une grande source de pollution et de péché pour la jeunesse, puis pas juste la jeunesse, même les adultes. Si c'est une pierre d'achoppement, il faut l'ôter. Si on n'a pas le choix de l'avoir, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer de purifier la chose. Enlever tout ce qui peut éloigner nos cœurs de la personne du Seigneur Jésus. Il faut être très radical sur cela. Il faut pas faire confiance à nos forces. Un jour, on se sent fort, le lendemain, on se sent faible, puis on tombe encore dans le péché. Il faut enlever la tentation. Il faut fuir ces choses-là. Comme Joseph, qui se faisait tout le temps harceler par la femme de Potiphar, quand c'est devenu comme « Ah! Ben, » qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son manteau en arrière, puis il est parti à courir. C'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà, c'est un petit peu l'application que je voudrais faire. Il y a moyen de faire une meilleure application que ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment et c'est ce que je désire nous encourager avec. Lisons maintenant ensemble le verset 6.
« Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »
Quel beau verset. Tu es un peuple saint consacré à l'Éternel. Et puis, l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'était la raison pour laquelle ils devaient faire toutes ces choses. Ils étaient un peuple saint, un peuple consacré à l'Éternel, un peuple qui lui appartenait en propre d'entre tous les peuples de la terre. Ils étaient mis à part pour Dieu, séparés des nations et de leurs œuvres. Tout ceci est vraiment très pratique lorsque nous le lisons à la lumière du Nouveau Testament. Paul dit, entre autres, dans Tite, chapitre 2, versets 13 et 14, « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. » Voilà ce que nous sommes, nous aussi, un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 16, on lit « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, eh bien, nous sommes rappelés, entre autres, que notre conduite présente parmi ceux qui sont dans les ténèbres doit être caractérisée, justement, par cette marche d'enfant de lumière dans la sainteté, etc. Il y a plusieurs autres passages dans les Écritures qui nous présentent ces mêmes notions. Pierre nous le rappelle d'une manière différente. Il dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, « Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi, je suis saint. » On a lu aussi dans ce beau verset 6, « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. » Ah, cette parole, vraiment, elle devait encourager le cœur des Israélites. Un peuple choisi pour Dieu, pour lui appartenir en propre, saint, consacré à l'Éternel. Combien peu souvent, nous, on a ces choses devant nos yeux, hein, comme croyants dans le Seigneur Jésus. On pense souvent au fait que nos péchés sont lavés, puis on est heureux devant le Seigneur, mais il faut jamais oublier cet aspect que nous lui appartenons, nous sommes à lui maintenant. Il nous a purifiés, lavés, acquis pour lui-même. Pour la gloire de son nom, pour notre joie aussi profonde, il y a un bénéfice des deux côtés. Nous, on est super heureux, reconnaissants, remplis d'action de grâce envers notre Dieu sauveur. Puis Dieu est super heureux aussi de nous avoir, d'avoir cette communion avec nous. Ce sera notre part éternelle. On lit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. » Quelle chose extraordinaire! On lit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 2, « Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et, en effet, la grâce et la paix nous sont maintenant multipliées dans le Seigneur Jésus, de la part de Dieu, élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. On lit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, « À quoi aussi ils ont été destinés, mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Pour Dieu, à Dieu, encore une fois, je cite ce passage, j'y reviens plusieurs fois ce soir, mais 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 et 18, on lit entre autres « De sortir du milieu d'eux et je vous serai pour père et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Wow! Fils et fille pour Dieu. Voilà ce qu'il a fait de nous. Donc, Israël devait être encouragé par ce fait qu'ils étaient un peuple qui lui appartiennent en propre à l'Éternel, que Dieu l'avait choisi. Eh bien, nous aussi, Dieu, maintenant, est plus que notre Dieu, hein? Il est un Père pour nous dans une relation réelle de fils en son Fils Jésus-Christ. Dieu a tout fait cela et nous sommes ses vases de miséricorde, à la louange de la gloire de sa grâce, Éphésiens chapitre 1 au verset 6. Quel avenir, frères et sœurs, que ces choses nous encouragent dans leur simplicité. Ce sont les promesses de Dieu que Dieu va accomplir. Puissions-nous en être occupés tous les jours et ouvrir nos bouches en louange et en reconnaissance par des cantiques et des prières. Ah, et pas juste le dimanche matin, le premier jour de la semaine, c'est super bien de le faire collectivement, mais chaque jour de la semaine, ça va alléger nos cœurs, ça va les remplir de joie, puis ça va nous occuper de la personne du Seigneur Jésus. On lit encore dans la deuxième portion de ce verset, « Afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, le but de Dieu en ayant sanctifié, mis à part Israël, c'est justement que ce soit un peuple qui ait la connaissance du vrai Dieu vivant et qui répande ce témoignage parmi les autres nations. Un peuple qui lui appartienne en propre. Eh bien, en ce qui nous concerne, Pierre a écrit, encore une fois dans sa première épître, au chapitre 2, verset 5, « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » On lit aussi dans les versets 9 et 10 que « Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant être le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » On voit ça? On n'était pas un peuple? Maintenant, on est quoi? Le peuple de Dieu. Et puis ça nous parle d'autant plus qu'en effet, je crois que la plupart, la majorité, c'est un fait statistique, des croyants dans la personne du Seigneur Jésus ne sont pas d'Israël de naissance. On n'avait aucune part à ces promesses merveilleuses-là. Mais maintenant, Dieu a fait tout cela dans l'œuvre de Christ. Pas un peuple, maintenant le peuple de Dieu. Il ajoute ensuite, jusqu'à la fin du chapitre, l'apôtre Pierre, le même genre d'exhortation à la séparation du mal. Cette consécration dont nous voyons ici les différents aspects pour Israël dans le Deutéronome chapitre 7, verset 1 jusqu'à 6 ici. Pierre y dit, chapitre 2, verset 11 et 12, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations. » Eh bien voilà, dans ce premier paragraphe, les versets 1 à 6 que nous venons de considérer, on a vu tout ce qui devait être fait parce que le peuple était un peuple saint, consacré à l'Éternel. Leur obéissance était la chose bonne et juste à faire. Dans cette obéissance, ils devaient détruire les nations et ne pas s'allier avec elles par mariage et détruire leurs idoles. Et puis ici, ils négligeaient quoi que ce soit, eh bien ça allait devenir un piège pour eux. Et leur histoire le prouve à plusieurs reprises. Et ne nous trompons pas nous-mêmes, notre propre histoire prouve la même chose. Si on est jeune dans la foi, on se dit « ben non, voyons ». Puis quand on a eu un petit peu d'expérience, on se rend compte que ce qui est arrivé à Israël, c'est exactement ce qui nous arrive si on ne met pas, nous aussi, si on ne prend pas à cœur de mettre en pratique la parole que le Seigneur nous a laissée. Alors voilà, pour nous aussi, le croyant doit agir de la même manière dans sa vie, dans sa maison, dans le public, lors des rassemblements de l'Assemblée. Il doit être séparé des façons de faire de ce monde. On lit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, « Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. » Donc, on doit avoir un changement pas faire comme autrefois. On lit aussi au verset 18, « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or. » Et puis, d'un autre côté, eh bien, il ne faut pas se lier par mariage avec ceux qui ne sont pas dans la véritable foi. Pas de nom seulement. Oh, c'est un chrétien de nom, mais dans une véritable foi réelle. Et idéalement aussi, avoir cet accord de pensée quant à ce que les Écritures enseignent. Parce que on peut marier quelqu'un d'autre qui est un croyant, mais si on pense diamétralement d'une façon opposée sur comment les choses devraient se faire dans la marche chrétienne, c'est un enfant de Dieu, puis on va falloir que s'attendre à ce qu'il y ait de l'humilité, mais il va falloir que quelqu'un plie à un moment donné, sinon il va y avoir de la chicane tout le temps. Il y a de la joie quand il y a l'unité et la communion, tant au niveau des enseignements des Écritures que des façons de faire. C'est une vraie bénédiction. La vie est déjà assez dure comme ça. Qui fait exprès pour se mettre des cailloux dans les chaussures puis aller prendre une marche? Personne qui fait ça. Une petite rage de rien, on fait un arrêt, on enlève la chaussure, on enlève le caillou. Faites-vous du bien, là, OK? Suivez les conseils du Seigneur. Mariez-vous avec quelqu'un, vous êtes sur la même longueur d'onde. Un cœur pour le Seigneur, un cœur pur, un vrai désir dans l'un et dans l'autre de faire ce qui plaît au Seigneur Jésus dans la simplicité puis marcher dans l'humilité avec votre Dieu. Ça va être de la joie puis du bonheur. Il y a déjà assez de difficultés comme ça, faites pas exprès pour en rajouter. C'est un encouragement personnel que je vous fais. Ceci étant dit, ne pas se lier par mariage avec ceux qui ne sont pas de la foi, c'est non négociable. C'est non négociable. Et puis, finalement, ne rien garder dans notre vie qui soit selon la façon de vivre de ce monde. Dans Actes, chapitre 19, au verset 19, on lit que plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses, eh bien, ils apportèrent leurs livres, les brûlèrent devant tous, ils en supputèrent le prix et ils trouvèrent qu'ils surmontaient à 50 000 pièces d'argent. Est-ce qu'ils avaient gardé quoi que ce soit, ces croyants-là, des choses du monde, de leur passé? Non, ils s'étaient débarrassés de tout. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y a quelque chose dans votre vie, avant que vous soyez venu, que vous êtes venu au Seigneur Jésus, qui était vraiment mal devant Dieu, gardez pas ça. Bye bye et oust. Ça va être autrement une source continuelle d'achoppement et de chute et vraiment un empêchement à votre croissance spirituelle. Faites-vous du bien. Débarrassez-vous de ces choses-là, comme ceux qui ont fait dans Actes 19, 19. Hey, les livres qui ont brûlé au feu, ils ont pas revendu, là. 50 000 pièces d'argent. Oh, il était zélé. Il voulait suivre le Seigneur Jésus. Alors, non seulement nos cœurs, ils vont être préservés de se détourner de Dieu et du Seigneur Jésus par le monde et les éléments de ce monde, eh bien, nos cœurs vont trouver quelque chose de mieux dans la personne du Seigneur Jésus et dans sa parole pour être encouragés et croître dans le Seigneur. Ce principe de séparation du monde est tout aussi important au niveau ecclésiastique. Puis, on le mentionne ici parce qu'Israël, on parle d'idolâtrie. Donc, la connaissance du vrai Dieu et l'idolâtrie qui est la fausseté, qui est un mensonge, qui n'est pas Dieu. Il y avait le vrai Dieu d'un côté, l'idolâtrie de l'autre côté. Donc, le point de vue ecclésiastique aussi est important. Si Israël devait avoir aucune part avec l'idolâtrie, eh bien, nous aussi, on doit avoir aucune part avec l'idolâtrie ou quoi que ce soit qui porte le nom de chrétien, mais qui est ni plus ni moins de l'idolâtrie et une corruption du christianisme. Puis, malheureusement, dans l'histoire du christianisme, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'idolâtrie qui est rentrée dans l'Église, justement. Par la grâce de Dieu, il y a quelques centaines d'années, il y a eu des réveils, il y a eu des divisions pour se séparer du mal et de la corruption qui étaient entrées dans le témoignage chrétien. Et les divisions, il y en a plein aujourd'hui de plus en plus. Il y en a qui sont bonnes, quand c'est pour se séparer du mal et du péché, c'est toujours une bonne division. Il faut se séparer de ce qui est mal. Mais c'est pas notre sujet, mais il y a plein d'autres divisions malheureusement qui sont dues à... Et voilà. L'homme est l'homme, hein? Voilà. Mais, ceci étant dit, l'idolâtrie existe encore. Elle se trouve même parmi le christianisme à bien des endroits. Eh bien, évidemment, toute idolâtrie ou association quelconque avec elle doit être entièrement exclue. 1 Corinthiens 10, verset 22 nous dit « Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? » Paul est en train de dire « Je veux pas que vous ayez communion avec les démons. » Voilà, à la table des idoles. Donc voilà, on va-tu provoquer le Seigneur en faisant cela, nous aussi? Non, pas du tout. Et puis, Josaphat est un exemple en cela. Hein. Il avait fait comme si rien n'était en relation avec Achab, qui était le roi d'Israël. Eh bien, cela lui a presque coûté la vie. Il a été sévèrement repris par un prophète aussi. Josaphat avait dit à Achab, quand Achab lui avait demandé « Hey, tu vas-tu venir en guerre avec moi contre le roi de Syrie? » Il m'a pris des villes, puis je veux les récupérer. Ah, mais oui, mon peuple est comme ton peuple, mon armée comme ton armée, puis hey, bien sûr, je vais y aller. Le prophète a dit dans 2 Chroniques, chapitre 19, au verset 2, que Jéhu, fils de Hanani le voyant, sortit devant lui et dit au roi Josaphat, après qu'il est passé proche de mourir à cause de son choix, hein, « Aides-tu aux méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, il y a de la colère sur toi de la part de l'Éternel. » Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous de cela. Et dans 2 Jean, chapitre 1, il y a juste un chapitre, versets 10 et 11, c'est écrit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine qui est la personne de Christ, on lit le contexte avant pour cela, eh bien ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Waouh, hein? Juste saluer quelqu'un, faire comme si de rien n'était, c'est participer à ses mauvaises œuvres. Donc voilà, quelqu'un qui a vraiment une fausse doctrine concernant la personne du Seigneur Jésus, faut même pas s'approcher de ça. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, « N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur toi-même. » Imposer les mains précipitamment peut nous faire malheureusement participer au péché de quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il faut tout le temps être méfiant comme croyant, mais il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut dépendre du Seigneur. Eh bien, finalement, évidemment, même au niveau des affaires commerciales, ne pas se mettre sous un joug mal assorti nous conduira avec sagesse dans nos affaires. L'exemple de Josaphat, encore une fois, nous parle en cela. Josaphat, lui, c'est un exemple des mauvaises associations. C'est un bon roi, mais ce qu'on peut tirer de sa vie, et puis si vous n'avez pas vu, j'ai une série de vidéos sur les rois de Juda qui sont disponibles sur mon site, leseigneurvient.com. Allez voir cette série de vidéos. Josaphat, vraiment, les associations. C'est ça qu'on peut tirer de lui principalement. On lit dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 35 à 37. « Après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Akasia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Et il s'associa avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsis. Ils construisirent des navires à Éthion-Guéber. Et Éliézer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat, disant, « Parce que tu t'es lié avec Akasia, l'Éternel a détruit tes œuvres. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc voilà, Josaphat qui a voulu faire business. On se dit, « Ah, mais c'est le monde des affaires, c'est pas le monde religieux. » Puis on se met sous un joug mal assorti avec des gens pour faire des affaires. Non, ça marche pas. On voit que l'Éternel a détruit les œuvres de Josaphat, puis on va juste s'attirer des problèmes puis des ennuis. Ah, mais c'est une bonne personne, c'est une bonne affaire. Les principes des Écritures sont là. Donc, prenons garde à nos associations avec ceux de ce monde qui sont sans Dieu, sans le vrai Dieu vivant et vrai, parce qu'ils n'ont pas les mêmes bases puis les mêmes principes moraux, puis ils n'ont pas la conscience aussi aiguisée que nous, enfants de Dieu, face à ce qui est bien et face à ce qui est mal. Que la personne soit en apparence une bonne personne ou non, qu'elle soit religieuse ou non cette personne, qu'elle soit honnête ou non, peu importe, le principe fondamental demeure le même et il est résumé ainsi, encore une fois, 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, que celui qui nous a appelés est saint, eh bien nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Et on pourrait relire encore 2 Corinthiens 6, 17, jusqu'au chapitre 1, verset 1. Mais je pense que j'ai déjà lu deux fois le même passage qui s'applique. Maintenant, on va regarder ensemble, c'était pour conclure ce premier paragraphe, les versets 7 et 8 de notre chapitre 7.
Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous a aimé. Et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte.
Voilà ici, on a l'Éternel qui parle à son peuple et qui lui rappelle les raisons, les pourquoi il entre dans la terre promise. Ou dit autrement, il les avertit sur ce qui ne sont pas les vraies raisons pour lesquelles ils vont dans la terre promise. Est-ce que c'est parce que le peuple était plus nombreux que tous les peuples? Eh bien, le choix de Dieu n'était pas lié au nombre du peuple. Ça n'avait rien à voir avec quelque chose de particulier dans le peuple, à vrai dire. Cette notion va revenir encore plus particulièrement dans le chapitre 8 du Deutéronome et le chapitre 9 du Deutéronome. Au chapitre 8, l'Éternel va dire « Dis pas que c'est ta force qui t'a fait prendre le pays. » Parce que Et puis dans le chapitre 9, il va dire « Dis pas que c'est ta justice, hein, ma justice. Moi, je suis plus juste que les autres peuples, que c'est pour ça que je t'ai donné le pays. » Eh bien ici, au chapitre 7, c'est justement la notion du grand nombre qui est en vue. Au contraire, la nation qu'ils allaient déposséder, les nations qu'ils allaient déposséder étaient plus nombreuses, on l'a vu au début de notre chapitre. Eh bien, ça nous fait penser un peu aussi à 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31, et puis Romains, chapitre 9, versets 22 à 24. Dans 1 Corinthiens, on lit justement car considérez votre appel, frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, etc. Je vous laisse lire la suite. C'est pas le nombre, c'est la grâce de Dieu qui vient et qui sauve. Et puis le Seigneur Jésus dira dans Luc 12 au verset 32, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En vérité, on n'est pas un grand peuple, on est un petit troupeau. Et puis, avez-vous remarqué comment aujourd'hui, dans le christianisme, le nombre est tellement important. On veut aller dans une grande église où il y a beaucoup de personnes. Puis s'il y a 2-3 personnes seulement, on se dit, je ne veux pas rester ici, ils sont faibles, il n'y a rien, c'est pas... Un petit troupeau. Il faut apprécier les choses comme Dieu les apprécie. Les hommes aiment voir des grandes foules, des grandes organisations, puis on se sent plus fort, on se sent... Ouais, c'est tout faux, ça. Si on se sent fort dans la chair, puis nombreux, puis on est capable de faire des choses, on est déjà pas mal parti. Tant mieux si on sent notre faiblesse. Tant mieux si on sent le petit nombre. Parce que, tant mieux, on s'accroche à notre Dieu, c'est à lui qu'on regarde, on fait pas confiance à nous, on fait pas confiance à notre nombre, on fait pas confiance au quotient intellectuel de tous ceux qui sont dans le local avec lesquels on se réunit, on fait confiance au Seigneur seulement. Dieu, dans sa fidélité, il nous garde, il nous bénit, il nous mène de l'avant. C'est pas le grand nombre, c'est ce qu'il dit à son peuple ici, un petit nombre, et puis voilà, c'est une chose qu'il faut réaliser. Les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont comme cela. S'il y a un grand nombre, amen, on va dire amen à ça. Mais prenons garde que ça ne devienne une pierre d'achoppement. On dit un peu en riant parfois, mais c'est pas tout à fait riant. Si tu commences à avoir trop de personnes puis trop de comités, ben il est temps de faire 2 assemblées. Tu sais, je veux dire, un peu moins nombreux pour que ça fonctionne bien. Puis l'autre danger des grands nombres, souvent, c'est on laisse les autres faire. Hein? On devient les spectateurs au lieu d'être exercés. Quand on a un plus petit nombre, on n'a pas le choix de participer. Donc voilà, il y a différentes choses. Il y a des avantages. Il y a un bon nombre, comme on dit. Mais il y a juste comme trop aussi. Puis je mentionne ces choses-là pas dans un esprit de jugement, absolument. Ne pensez pas ça de ma part. Mais voilà, un petit nombre. Que le Seigneur nous donne de regarder en lui. Qu'on soit un grand nombre, un petit nombre, de regarder à lui. Malgré l'infidélité du peuple, lui, l'Éternel, eh bien, il garde le serment qu'il a juré au Père. C'est pour cela qu'il les a fait sortir d'Égypte, qu'il les a rachetés. C'est pas parce qu'ils étaient très nombreux. Si on est incrédule, on lit dans 2 Timothée 2:13, « Lui demeure fidèle, car lui ne peut se renier lui-même. » Dieu est toujours fidèle dans tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment à cause de sa fidélité maintenant qu'il donnait cette terre au peuple d'Israël, parce qu'il l'avait juré à ses pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Puis nous aussi, des fois, on peut sentir notre infidélité. Oh, que le Seigneur nous donne de tout le temps chercher sa face, de nous approcher de lui, toujours. On sent des fois qu'on manque aussi. Hein? On n'a pas l'énergie qu'on devrait avoir, on n'a pas la dévotion qu'on devrait avoir. Dieu est toujours fidèle. Allons à lui. Ses promesses demeurent. Ayons foi et attendons-nous à lui. Voilà. Lisons maintenant une autre portion, versets 9 et 10.
Connais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements, et qui récompense en face ceux qui le haïssent pour les faire périr. Il ne différera pas à l'égard de celui qui le hait, il le récompensera en face.
Je veux juste mentionner pour cette portion ici, encore une fois, on fait un survol, on peut pas aller dans tous les détails, mais de reconnaître que Dieu est Dieu et sa fidélité, c'est lui qui garde l'alliance. C'est ce que le peuple devait faire. Puis nous aussi, apprécier cela, que Dieu est Dieu. C'est lui le seul Dieu vrai, vivant, véritable. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour se manifester pleinement et parfaitement à nous. Et puis, il est fidèle. Il garde l'alliance. Et puis, en la croix de Christ, on comprend très bien que ce n'est plus quelque chose que nous devons faire, mais que lui a tout fait. Nous devons le recevoir avec action de grâce, par la foi, ayant pleine confiance dans la promesse de la parole de Dieu, que Dieu nous a fait en l'œuvre accomplie de son Fils bien-aimé. Et puis la deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que l'Éternel ici, on lit qu'il ne tient pas le coupable comme innocent. Il ne tient pas le coupable comme innocent. Eh bien, ça c'est l'autre aspect sérieux ici. C'est que nos péchés, Dieu n'a pas fermé les yeux dessus. Le Seigneur Jésus a reçu à notre place la condamnation que l'on méritait. Et c'est pour cela maintenant qu'il peut nous déclarer juste. Mais pour tous ceux qui ne sont pas à l'abri du sang de Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, le jugement demeure sur eux, parce que Dieu ne tient pas le coupable comme innocent. Jamais. Nous, on a été déclarés justes, parce qu'on a cru en ce que Christ a fait à la croix. Son sang a été versé, qui nous purifie de tout péché. Il a goûté la mort, il est entré dans la mort à notre place. Eh bien, Dieu, il est juste maintenant, on lit dans le Nouveau Testament, il peut déclarer celui qui est de la foi du Christ comme étant juste. C'est une grâce de Dieu. On va poursuivre notre lecture maintenant dans les versets 11 et 12.
Et tu garderas les commandements et les statuts et les ordonnances que je te commande aujourd'hui pour les pratiquer. Et si vous écoutez ces ordonnances et que vous les gardiez et les fassiez, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères.
L'application spirituelle de ces bénédictions, de versets 9 à 15 qu'on va lire maintenant, eh bien, elle convient pour la vie d'assemblée et individuelle. C'est spirituellement que nous sommes bénis aujourd'hui. Ici, nous allons lire des bénédictions terrestres pour le peuple d'Israël. C'était leur, ça faisait partie de l'alliance. Ils allaient entrer dans une terre, Dieu allait les bénir, basé sur leur fidélité à garder les commandements de l'Éternel. On trouve ce thème continuellement dans le Deutéronome et à mesure que nous allons poursuivre notre étude, on va faire des applications pour nous, peuple de Dieu, quant à notre marche et nos bénédictions spirituelles que nous avons. Parce que c'est vraiment spirituellement que nous sommes bénis et l'accroissement, la santé, la joie, l'abondance dans l'esprit, la communion, l'héritage, toutes ces choses-là, lorsqu'on le lit pour Israël, on peut y trouver une application qui va bien aussi pour nous comme enfants de Dieu. Au verset 13, lisons le verset 13, et puis on va commenter sur le verset 13.
Et il t'aimera, et te bénira, et te multipliera. Et il bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de ta terre, ton froment, et ton moût, et ton huile, et la portée de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner.
Alors voilà, c'est une des premières choses qui nous est mentionnée dans ce verset 13, c'est que l'amour de Dieu est présenté. Si le peuple garde le commandement de l'Éternel, c'est ce qui nous est mentionné dans les versets 11 et 12, s'il garde cette parole, il marche sur celle-ci, c'est écrit, il t'aimera, il te bénira, te multipliera. Donc, ils pourront être conscients de l'amour de Dieu en faisant ce qui est bien devant Dieu. Vous savez, nous aussi, on a quelque chose d'équivalent dans le Nouveau Testament. Si on vit dans le péché, l'Esprit de Dieu qui est en nous, il va être attristé, il ne pourra plus nous communiquer les beautés, les richesses et la jouissance de ce que nous avons en Christ. Mais il va être attristé en nous, puis il va vouloir travailler pour nous amener à repentance de nos voies qui sont fausses devant Dieu, du péché qui peut être en nous ou de la résistance que nous pouvons avoir à ce que Dieu désire placer devant nous. Ça, ça l'attriste l'Esprit-Saint, puis ça nous empêche de jouir de cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est versé dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Eh bien, si je marche de notre côté en faisant ce qui est bien devant Dieu, je vais avoir cette communication continuelle des choses de Dieu et je vais goûter d'une façon réelle dans mon quotidien cet amour de Dieu. Donc, on trouve un équivalent. C'est pas la même chose ici. Je vais juste présenter les deux en parallèle, mais le principe de base est là. Si l'enfant de Dieu marche dans la lumière, puis fait ce qui est agréable devant Dieu, il va avoir la communion avec Dieu. Il va être heureux. Puis même dans les difficultés, il va avoir la conscience, la communion de l'esprit pour aller de l'avant. Il va être encouragé. Mais si malheureusement, il marche dans des voies qui sont fausses, évidemment, il ne sera pas heureux, le croyant qui marche dans de telles voies. On trouve ici, dans cette bénédiction du verset 13, donc, pour l'Israélite qui est fidèle, eh bien, non seulement il va être conscient, jouir de l'amour de Dieu, eh bien, sa bénédiction à Dieu va être sur eux. Ils vont être multipliés. Et on trouve toutes sortes de choses qui nous sont mentionnées, hein? Le fruit de ton ventre, le fruit de la terre, ton froment, ton mou, ton huile, la portée de ton gros bétail, l'accroissement, etc., la terre. Tout ça, c'est multiplié. Est-ce que nous désirons être multipliés spirituellement comme peuple de Dieu? Comme enfant de Dieu, à titre individuel, dans nos réunions collectives ensemble, eh bien, voilà, si on fait ce que le Seigneur nous demande dans chacun des cadres qui nous sont mentionnés, Dieu a donné des instructions pour les familles, comment élever les enfants, comment se comporter comme parents, etc. Si on fait ça, on va avoir la multiplication spirituelle. Si dans nos assemblées, lorsque nous nous réunissons ensemble et que nous le faisons, comme le Seigneur l'a demandé de le faire, en simplicité. Ah, de pas mettre nos raisonnements. Oui, mais ça, c'était dans le temps, machin, truc. Non, de faire comme... Il va avoir la bénédiction. On va être multiplié. On va grandir dans le Seigneur Jésus. Voilà ici. Si on cherche la multiplication, même des âmes qui sont sauvées. Bon, vous allez me dire, hey, c'est rendu dur aujourd'hui dans nos... Oui, c'est vrai. OK, je suis d'accord. Mais si on rend jamais témoignage au Seigneur, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la multiplication? C'est en rendant témoignage que le Seigneur fait son travail. Puis qui peut sauver des âmes. Vous voyez, il y a cette responsabilité de faire ce qu'on sait qui est droit devant Dieu. Pas parce qu'on est sous une loi, mais parce qu'on sait que la bénédiction est là aussi. Puis c'est selon la pensée de Dieu. On lit l'autre verset, versets 14 et 15 ensemble pour la suite de ces bénédictions.
Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura, parmi toi et parmi tes bêtes, ni mâle ni femelle stérile. Et l'Éternel éloignera de toi toute maladie, et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connues, mais il les mettra sur tous ceux qui te haïssent.
Voilà, on trouve ici stérilité, maladie, plaies malignes, ce qui est arrivé en Égypte. Eh bien, si le peuple il marche fidèlement devant Dieu, il va être protégé de toutes ces maladies-là, de tous ces fléaux-là. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie aussi, comme croyants. On ne parle pas de choses terrestres ici, on parle toujours de choses spirituelles, de la stérilité. Est-ce qu'on a l'impression de jamais grandir, qu'on stagne? Ça, c'est de la stérilité. Est-ce qu'on a l'impression d'être malade spirituellement? Tu sais, ça va pas bien, puis... Il y a une solution toute simple à ça. Faire qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Est-ce qu'on amène nos fardeaux dans la prière? Philippiens chapitre 4. Est-ce qu'on s'occupe de la parole de Dieu à tous les jours? Hein? Colossiens chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'on chante des cantiques? Est-ce qu'on se remplit de la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que notre vie, c'est vouloir vivre pour lui? Être occupé de lui? Si c'est ça, c'est la meilleure pilule, si vous me permettez, pour guérir ces maladies-là spirituelles qui peuvent nous atteindre si on fait pas attention. Est-ce que tu t'occupes de choses que tu n'as pas d'affaire à t'occuper de ce monde? On en a parlé tantôt. Ben, il faut ôter ça. Il faut ôter ce qui est mal, ce qui est corrompu, puis s'occuper de tout ce qui est bon. Philippiens chapitre 4, encore une fois, hein, tout ce qui est pur, juste, digne de louange, de bonne renommée. Bref, Paul dit, occupez-vous de ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. C'est une chose merveilleuse. C'est une promesse qui est pour nous aussi. Ici, c'est Israël. C'est très, très physique, très terre à terre comme bénédiction, basée sur leur fidélité. Nous, encore une fois, toujours spirituels. Nos promesses, nos bénédictions sont dans les cieux, sont en la personne de Christ, pas pour les choses de cette terre. Lisons maintenant le verset 16.
Et tu consumeras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livre. Ton œil ne les épargnera pas et tu ne serviras pas leur Dieu, car ce serait un piège pour toi.
Voilà, ils étaient appelés aussi ils allaient avoir, c'est-à-dire dans leur fidélité, la victoire sur leurs ennemis. Tu consommeras tous les peuples. Comment est-ce que c'est possible? Ben, c'est en obéissant au commandement de l'Éternel. Ils allaient avoir la victoire. Tous les peuples, hein, c'est écrit, que l'Éternel, ton Dieu, te livre. C'est l'Éternel qui faisait cela. S'ils obéissaient, s'ils faisaient comme Dieu demandait, ils allaient avoir la victoire. Lisons maintenant les versets 17 à 21.
Si tu dis dans ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder ?» Ne les crains point. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, et des signes et des prodiges, et de la main forte et du bras étendu par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples dont tu as peur. Et l'Éternel, ton Dieu, enverra aussi les frelons contre eux, jusqu'à ce que ceux qui seront restés et ceux qui se seront cachés devant toi aient péri. Tu ne t'épouvanteras pas à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un Dieu grand et terrible.
Ah, face aux ennemis, est-ce que c'est possible que le peuple ait peur? Nous, est-ce qu'on a peur parfois? On a des craintes parfois. Ah oui, mais si je fais ceci ou si je fais cela, il pourrait arriver ceci et cela. Puis on se met à avoir des craintes au lieu d'avoir confiance en Dieu. Ici, on a cette belle promesse, on a quelque chose de magnifique qui nous est présenté, où le peuple est encouragé à ne pas craindre. Comment pourrais-je déposséder ces ennemis qui sont trop grands pour moi? Pas craindre, parce que Dieu est avec eux. Et ils devaient se rappeler de ce que l'Éternel avait fait pour eux en Égypte et par la suite. Et puis nous aussi, se rappeler de ce que le Seigneur Jésus a eu comme victoire contre ces choses qui sont encore des ennemis pour nous aujourd'hui. En lui se trouve la victoire. Donc face aux ennemis spirituels, le monde, la chair, le diable, il faut aussi s'en remettre entièrement à Dieu. Si l'on regarde à nous, eh bien, c'est la crainte et le manque de force que nous allons voir. Mais souvenons-nous de la victoire de Christ et que toute autorité lui a été donnée et qu'il revient en puissance, ce grand triomphateur. C'est lui qui a eu la victoire, elle est acquise, demeurons en lui et marchons par l'Esprit. Ces versets sont un rappel pour nous de regarder par la foi à notre grand triomphateur qui a vaincu Satan et le monde. Nous craignons? Eh bien, regardons à lui. La victoire est complète et la délivrance aussi. Mais regardons avec foi, nous attendant véritablement à lui. Donc, on a beaucoup de beaux passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent justement de ce triomphe, de cette victoire du Seigneur Jésus. Mais par faute du temps, pour garder cette présentation dans une heure, on va les passer. Mais c'est un sujet de recherche qui peut certainement encourager, qui m'a encouragé, qui vous encouragera. Trouvez ces passages où il nous est parlé de ce triomphe du Seigneur Jésus. Lisons maintenant les versets 22 à 24.
Et l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations de devant toi peu à peu. Tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais l'Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi et les jettera dans une grande confusion jusqu'à ce qu'il les ait détruites. Et il livrera leur roi en ta main et tu feras périr leur nom de dessous les cieux. Nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits.
Voilà, on a parlé tantôt de ce fait des nations qui allaient être chassées. Et dans ce passage, nous lisons que tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais l'Éternel allait les livrer devant le peuple et puis les jeter dans une grande confusion jusqu'à ce qu'il les ait détruites. Donc, c'est garanti qu'elles vont être détruites à la fin, mais tout n'allait pas se produire en un instant. Et on trouve aussi ailleurs que malheureusement, le peuple n'avait pas eu beaucoup de zèle non plus. Dans un autre passage, dans le livre des Juges, au chapitre 3, versets 1 et 2, on lit ceci. « Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent, en l'apprenant, ce que c'est que la guerre. Ceux, du moins, qui auparavant n'en avaient rien connu. » Donc, on voit qu'une pensée de Dieu ici, Premièrement, que la terre allait pas être laissée aux animaux sauvages. Et deuxièmement, que la génération des enfants qui allaient suivre apprennent eux aussi ce que c'est la guerre, les combats de l'Éternel, pour ainsi dire. Dans notre marche comme croyants, les expériences qu'on fait en grandissant, hein, il y a des gens qui sont sauvés depuis 40 ans, 30 ans, plus, moins. Les expériences qu'on fait au fil des années nous enrichissent dans la connaissance de notre Dieu, puis le chemin de la victoire. On peut les partager à d'autres aussi pour qu'ils apprennent de ces expériences-là. Mais inévitablement, les autres, nos autres générations, devront eux aussi apprendre à faire les mêmes expériences avec le Seigneur personnellement. Ils peuvent tout à fait bénéficier, être enrichis du vécu d'autres enfants de Dieu qui ont déjà passé par là, mais c'est un apprentissage qu'ils doivent faire aussi. Eh bien, c'est intéressant de ces combats qui allaient continuer, de faire un contraste prophétique parce qu'on sait qu'un jour, il n'y en aura plus de combat. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 4, on lit qu'on n'apprendra plus la guerre. Ça nous parle du millénium. Dans Michée chapitre 4, au verset 3, la même chose nous est dite, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, 4, Michée 4, verset 3. Donc, c'est très beau cela. On voit, c'est le conseil, la sagesse de Dieu. D'un autre côté, il y avait la responsabilité du peuple de Dieu d'être zélé pour prendre la terre. Nous aussi, la même chose. On doit avoir du zèle dans nos vies pour prendre possession pratiquement de ce que nous avons par l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons maintenant les deux derniers versets de notre chapitre, les versets 25 et 26.
Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne désireras pas l'argent ou l'or qui sont dessus, et tu ne les prendras pas pour toi, de peur que, par là, tu ne sois pris dans un piège. Car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu, afin que tu n'introduises pas l'abomination dans ta maison, et que tu ne sois pas anathème comme elle. Tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est un anathème.
Voilà, on a lu à travers ce chapitre qu'il ne devait pas avoir d'alliance, pas de communion, pas même ici, on voit même récupérer les matériaux qui constituaient l'idole, car ça même, ça pouvait être un piège pour eux. Eh bien, ça devrait nous parler à nous aussi et nous faire réfléchir comme croyants, même pas les mêmes matériaux. Vous savez, il y a des choses dans ce monde qui étaient dans le passé une source de chute pour nous. Est-ce qu'on peut les récupérer pour en faire quelque chose de bien pour Dieu? Dans ce cas-là, Dieu dit non. L'or même qui est sur les idoles, tu vas pas récupérer ça. Tu vas tout détruire, tu vas t'en débarrasser. On passe à autre chose. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est pas reçu de Dieu et la bénédiction de Dieu, a pour caractère d'éloigner le cœur et est un piège pour le croyant. C'est une abomination pour Dieu. Il faut détruire cet anathème-là. Hein? Aux yeux de Dieu nous aime tellement, il a donné son Fils bien-aimé, ça a coûté dans de grandes souffrances, sa mort, une résurrection victorieuse. Il est maintenant assis dans les cieux. Dieu a fait tout ça pour nous, te, moi, sauver. Il a fait ça pour nous sauver. Quand il y a quelque chose qui se présente devant nous puis qui tire nos cœurs ailleurs que sur la personne du Seigneur, c'est une abomination devant Dieu. Il nous aime tellement, il nous aime comme ça, il veut que nos cœurs soient tout entiers pour lui. Dans la joie de sa communion, de sa présence devant lui, c'est ça qu'il désire notre Dieu, pour toi, pour moi, pour nous tous. Il faut vraiment enlever toutes ces choses-là qui détournent nos cœurs et nos pensées du Seigneur. Tantôt, on a lu le verset d'Actes 19:19, où ils avaient pris leurs livres, les avaient détruits, ça valait une fortune. Bien, ces croyants-là ont fait la perte de ces choses-là. Ils auraient pu récupérer la valeur de leurs livres, mais ils ont préféré tout perdre que de donner ces choses mauvaises à d'autres personnes. Ça revient un peu à récupérer l'or de dessus les idoles. Ah, on va garder l'or, puis on va... Non. Ces livres-là, c'était vraiment occulte. Ils ont détruit au feu. Ils allaient pas récupérer la perte. On a un beau parallèle ici, une belle application, je trouve, à ce qu'il nous a dit dans ce passage. C'était vraiment contraire au message qu'il proclamait. Il proclamait Christ, sa mort à la croix, être sauvé, avoir une vraie relation avec Dieu. Ils n'allaient pas comme « Bah oui, j'ai revendu mes livres occultes pour récupérer l'argent. » On comprend que c'était... Non, ça n'allait pas fonctionner, ça. Ils étaient vraiment consistants avec leur témoignage. Voilà. C'était plus un piège pour eux, ils les ont détruits, puis ça allait pas devenir un piège pour d'autres non plus. Oui, c'est extrême, mais c'était le chemin de Dieu. Ici, le message n'est pas hyperbolique pour rien dans ce qui nous est dit. C'est vraiment la réaction et l'attitude que nous devrions avoir face aux œuvres des ténèbres. Nous en tenir loin et les reprendre. Éphésiens chapitre 5, verset 10, 11, 12, 7, 9. Éphésiens chapitre 5. Reprenons les œuvres des ténèbres. Donc voilà, ça fait le tour de ce chapitre 7. En résumé, le peuple était un peuple saint, il était à Dieu et pour Dieu, puis il ne devait pas aller s'allier avec le mal qui se faisait parmi les nations. Sinon, ils allaient eux aussi être corrompus. Que ce soit par le mariage, que ce soit par l'idolâtrie rampante qui était là, toutes ces choses-là devaient être écartées et ôtées entièrement. Ils ne devaient rien garder de ce que ces nations-là avaient, parce que ça allait être un piège pour eux. Leur fidélité allait être leur bénédiction. Dieu ne peut pas s'allier avec le mal, puis s'il n'y a pas de mal au milieu d'eux, eh bien la bénédiction va venir. Mais s'il y a du mal au milieu d'eux, parce que c'est le peuple de Dieu, et que Dieu est saint, et qu'eux se trouvent maintenant dans une situation où ils ne sont plus saints à cause du mal qui est au milieu d'eux, eh bien ils allaient avoir la colère de Dieu sur eux. Voilà ce qu'était la part pour Israël. Et pour nous, c'est la même chose. On est des enfants de lumière, on doit marcher dans la lumière, se tenir loin des œuvres des ténèbres, les reprendre et puis vivre dans la sainteté, c'est-à-dire mis à part pour Dieu et entièrement pour lui. Et ça, ça va être pour nous aussi le lieu de bénédiction et de croissance spirituelle pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous encourage tous, que nous ayons dans sa grâce ce zèle de toujours nous tenir près de lui. Il vient très bientôt. Et c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.